Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Bonjour et bienvenue sur les Radio Campus. Univox se met au vert cette semaine. Nous partons près de Sully-sur-Loire, à quelques kilomètres d'Orléans, à la rencontre d'André Fouchard, pionnier de l'agriculture biologique dans le Loiret. Aujourd'hui à la retraite, André Fouchard est consultant en agrobiologie, sol et maraîchage bio. Il aide notamment les jeunes agriculteurs à s'installer.
Univox. Univox.
Donc vous avez les prairies qui sont de l'autre côté. Et puis vous avez le long, si vous êtes arrivé le long de l'étang, là, vous avez vu, vous avez longé un étang, et l'entrée de l'étang, c'est tous des glands que j'ai semés, des grands chênes, là, c'est des glands que j'ai semés il y a 38 ans. Donc maintenant, il y a des arbres comme
donc,
ça.
Donc tous les arbres aussi qui sont ici, c'est beaucoup.
Alors sauf ce tilleul-là, le noyer qui est là-bas, mais tout ce que vous voyez, le reste, ça a été semé, planté, et puis le gros chêne qui est là aussi, qui était déjà là, lui, il n'est pas d'aujourd'hui, mais sinon, il n'y avait pas d'arbres. Et c'était que des champs cultivés. Puis ce poirier aussi qui était là. Sauf tout le reste, c'était pas là.
Là, il y a des vieux tracteurs.
J'ai toujours acheté, oui, voilà, j'ai toujours acheté du vieux matériel d'occasion, qu'on rafistole soi-même. Éviter de trop investir, de trop emprunter. Oui, c'est ta maman, j'ai sa mère, elle vient d'en faire trois là. Du coup, c'est une jeune, hein, elle n'est pas tondue, donc c'est une jeune, mais elle est un peu plus apprivoisée que les autres. Et les autres, ils vont toutes faire leur petit. Les arbres que vous voyez là, qui ceinturent cette prairie là, tout ça, il n'y avait rien du tout. C'est les arbres que j'ai plantés tout petits comme ça, gros comme les pâtés. Voilà.
Ouais, donc beaucoup de patience.
Ouais, faut faire, après la patience. J'aimais bien les arbres quand ils étaient petits, après c'est de suivre, de voir tout le côté vivant, tout. Après on s'ennuie pas. Hein. Des fois on peut arriver dans une campagne, on trouve ça figé, mais. Quand on la vit, il y a plein de choses qui bougent, et la végétation, tout pousse, enfin, il se passe plein de choses. Et du coup, la patience, elle est nature. Enfin, c'est même plus de la patience, quoi. C'est juste un peu de l'observation, de la contemplation aussi. Voilà. C'est de vivre un peu vraiment les choses qu'on fait. Quoi.
André Fouchard, bonjour.
Bonjour.
On est à côté de Bray-en-Val, c'est ça ?
On est à Bray-en-Val, on est sur la commune de Bray-en-Val, mais un peu dans le Val, un peu à 2 km du village.
Et alors, vous nous faites visiter votre ferme ?
Voilà. Alors, c'est la ferme que mon arrière-grand-père a construite en 1897. Donc, c'est une ferme de famille. Et moi, je me suis installé ici en 76, en bio. Après un parcours dans les communautés dans le sud où je me suis initié à l'agriculture bio à Manosque et cette ferme se libérait parce que le paysan à qui on louait partait à la retraite et donc je me suis dit bon bah allons-y, on va essayer quoi. Et donc je me suis mis en bio directement quoi, à l'époque.
Et vous êtes issu d'une famille de paysans aussi ?
Je suis issu d'une famille de paysans, mais d'une famille un petit peu... Bon, il y a eu des séparations et tout, et du coup, j'ai aussi vécu dans le 9-3. Donc, je suis un mixte un petit peu né à la ferme, mais aussi en ayant des passages en banlieue et à Paris.
Et alors, à Manosque, vous avez appris justement les fondements de l'agriculture paysanne.
Exactement. C'était une recherche communautaire. C'est une association loi 1901, la Thomasine, qui est toujours... ça appartient à la ville de Manosque, le lieu. Et c'est maintenant la maison de la biodiversité. Et c'était un peu une expérience, un peu de vie à la fois communautaire et de faire un peu tout nous-mêmes. Bon, il y avait des stages de plantes médicinales avec François Couplan qui conseille Marc Vera. Enfin, il y avait des gens un petit peu voilà, qui étaient branchés déjà à l'époque sur tout ce qui est un peu, il y a un avion qui va passer. Tout ce qui était un peu alternatif au niveau de l'agriculture et de l'artisanat. Et j'ai planté des haies dès le début. Ça a été ma première mission, c'était de planter des haies un peu partout et d'en semer. Donc il n'y avait pas, quasiment pas d'arbres ici. Et ça a été le premier challenge. Je continue d'ailleurs hein, d'être en planter, en semer. Mais ça a été le premier challenge, c'était un petit peu de me ceinturer, de faire un maillage de haies champêtres. Et à la fois pour me séparer des traitements voisins et puis d'avoir un brise-vent, tout l'intérêt de la haie, hein, lutte biologique, le paysage aussi, hein, qui est aussi un facteur important, et puis le bois, enfin on peut mettre des fruitiers, des choses dedans, donc toutes les fonctions de la haie étaient importantes pour moi à insérer dans le domaine, on va dire, dans le petit domaine.
Et les premières cultures que vous avez faites ici, donc après les haies, ou vous avez fait des haies pour faire d'autres cultures?
Alors j'ai fait tout de front en fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait des céréales. Hein. Alors je faisais des céréales de l'épeautre, du blé, des anciennes variétés de blé avec Philippe Desbrosses chez qui j'allais chercher les semences. Et j'ai eu des moutons, des chèvres. Alors l'activité principale, ça a été pendant 20 ans quand même plus les chèvres où je faisais un fromage que je vendais sur le marché à Sully et puis Orléans, puis les restaurants un petit peu, certains restaurants. Et du coup, ça a été polyculture élevage où je faisais un peu de farine, je faisais un peu de maraîchage à petite échelle, un peu de légumiers et puis et la micro-ferme un peu polyculture élevage où on fait un peu tout soi-même, quoi. Donc avec beaucoup de travail. Mais un petit peu ce qui maintenant un peu tend à prendre un peu chez certains jeunes qui s'installent. Bon, à l'époque, quand j'étais un peu seul, c'était un peu compliqué. Parce que quand on est tout seul à faire quelque chose, on n'a pas toujours la compréhension, sauf des anciens à l'époque, qui comprenaient mieux la chose que ceux qui étaient à fond dans le productivisme et tout, quoi. Suite à 68, il y avait quand même un peu un retour à la nature. Il y a eu quand même des gens qui ont alerté un peu sur les problèmes d'écologie, de pollution, d'agriculture intensive, des problèmes de traitement. Déjà, il y avait déjà un peu des alertes. Hein. Il y a eu René Dumont quand même qui s'était présenté au présidentiel. Et il y avait quelques personnes, mais c'était vraiment un petit nombre. Et des scientifiques aussi hein, qui alertaient justement sur les problèmes de climat qu'on allait rencontrer à l'époque et tout. C'est pas nouveau. Et du coup, bon, bah, moi j'ai complètement cru, enfin j'y crois toujours, hein, mais pour moi c'était ça où je faisais, j'aurais pas fait de l'agriculture conventionnelle n'importe comment, quoi. C'était vraiment de faire ça. Alors au début c'était très difficile parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs techniques. On n'avait pas beaucoup d'aide de l'extérieur quand on faisait de l'agriculture en bio. Et du coup, ça a été trois premières années où j'ai eu quasiment très peu ou pas de production sur certaines cultures que je faisais, quoi. Donc il a fallu que je m'accroche, que je travaille un peu à côté. J'ai failli lâcher prise plusieurs fois, mais je me suis accroché. Après, j'ai eu des bons conseils de technico-commerciaux de la Maison Le Maire, qui était à l'époque une société qui vendait du pain bio, et qui vendaient aussi les engrais, donc il y avait le côté un peu commercial pour eux, mais ils m'ont quand même bien aidé techniquement. Et après j'ai fait un peu de biodynamie, enfin je me suis petit à petit, j'ai fait l'école d'agrobiologie de Beaujeu avec Bourguignon, Pierre Rabhi, tout ça. Donc c'est là où j'ai appris aussi au bout d'une quinzaine d'années plus de théorie. Alors, la perception qu'on a des agriculteurs a évolué. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on faisait rire et puis on était très moqués. C'était un peu, des fois, quand je faisais le marché, je retirais ma pancarte comme quoi j'étais Nature et Progrès, parce qu'il y avait beaucoup de réflexions, de moqueries, puis des fois on en a un petit peu, voilà. Et puis ça a changé à partir des années 2000, où là il y a eu quand même vraiment un mouvement un peu avec les journées de la bio, de l'environnement, tout ça. Il y a eu des portes ouvertes ici, j'ai eu pas mal d'articles de journaux à l'époque. Les premiers c'était en 81, quand la bio a été reconnue. Là c'était mon premier article de la Nouvelle République. Et maintenant, c'est quelque chose un petit peu qui est mieux perçu, même si, alors moi, qui étais un petit peu opposé à l'agriculture conventionnelle à l'époque où j'étais un peu en conflit, maintenant, je suis plus à parce qu'il y a tellement de gens avec l'agribashing qui défont un peu, les agriculteurs. Moi, du coup, je me dis, et s'ils font comme ça, c'est aussi parce qu'on a été un peu obligé, pour certains, il n'y avait pas trop de choix, parce que celui qui était en bio dans les années 60, d'abord, le terme n'existait pas, c'était pas reconnu, et du coup, il vendait son produit au même prix. Il n'y avait pas de reconnaissance, et c'est ça qui a fait le mal, c'est qu'il ne pouvait pas se comparer avec une petite production, même si elle était de qualité, à quelqu'un qui faisait de la grosse production. Donc, c'est là qu'il y a eu un peu... une orientation vers l'agriculture industrielle ou productive, quoi. Et du coup, si on ne faisait pas comme ça, ben on était cuit, quoi.
Et le label bio, il existe depuis quand ? Les années 80 ?
Non, depuis, non, officiellement, c'est 81, avec le passage de... Quand Mitterrand est passé, c'est lui qui avait dans son programme inclus ça. Sinon, avant, c'était pas reconnu officiellement, mais il y avait Nature et Progrès avec... des commissions où il y avait une certification qui n'était pas officielle, mais qui était quand même reconnue des consommateurs, parce que les consommateurs participaient à ces groupements, c'est COMAC, ça s'appelait, les producteurs aussi, j'en faisais partie, et du coup, il y avait quand même un peu, ça existait quand même, quoi, mais ce n'était pas officiel. Et aujourd'hui, je suis à la retraite, entre guillemets, parce que je suis aussi... Alors, j'ai une retraite un peu sur l'essentiel de ma carrière d'agriculteur, donc des petites retraites. Donc, je suis aussi auto-entrepreneur, je suis consultant en agriculture bio. Et ma spécialité, c'est les études de sol et de fertilisation auprès des agriculteurs bio, donc des groupements d'agriculteurs, les GAB, les CIVAM. Ici, le GAB OR, Orléanais, le GAB OR, il s'est créé ici. Donc c'était le siège social ici. Il y a eu les bureaux de la FNAP, la Fédération Nationale des Bio, qui a été ici pendant un an ou deux. Et donc il y a un peu toute une histoire.
Le but de ces fédérations, c'est plus d'aider les agriculteurs à s'installer. C'est l'entraide en fait ?
Ouais, c'est de l'entraide, c'est de l'information, c'est aussi de l'animation, les aider à se reconvertir. Il y a des techniciens, il y a surtout des animateurs au niveau des GAB un petit peu pour se regrouper, faire des achats groupés, s'entraider et aussi apprendre. Après, il y a Biocentre qui s'occupe plus techniquement de suivre les agriculteurs qui sont en bio ou qui se reconvertissent. Mais au départ, c'est syndical. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été agriculteur ici pendant 20 ans. Et après, j'étais encadrant dans des structures d'insertion. Donc, à l'ADS à Sully-sur-Loire, où j'encadrais des jeunes sur les ouvertures de chemin, sur les aménagements du conservatoire, les bords de Loire, où j'ai été à l'initiative du pastoralisme de Loiret. Donc, les moutons qui pâturent, tout ça, c'était moi qui étais à l'initiative de ce projet. Et après, j'ai été aussi chef de culture d'un jardin de cocagne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les jardins de cocagne.
C'est les jardins d'insertion
où on fournit un panier à chaque adhérent. Et du coup, la mission, c'est l'insertion, mais c'est aussi basé sur l'agriculture bio avec des adhérents et en lien avec le secteur professionnel. Ça, c'est la charte qui a 4 pôles. Et j'ai été chef de production du jardin de cocagne de Blois, qui est un très gros jardin, où il y avait le biocentre qui fournit les paniers, un peu 3-4 000 paniers sur Paris, Orléans, tout ça, qui est devenu une grosse structure quand même. Et j'ai fait ça pendant 7-8 ans, et après j'étais au réseau cocagne au niveau national, où j'étais chargé d'une mission agro auprès de tous les jardins de France. Donc, j'ai tourné un peu sur tous les jardins pour faire de l'appui technique, mais aussi de l'appui de management auprès des personnels en insertion, auprès des directeurs sur certaines missions, sur la façon de gérer un jardin. Voilà.
D'accord, donc en ce moment vous êtes consultant à vos...
De temps en temps.
De temps en temps, vous êtes bénévole. Et qu'est-ce qui est...
Bénévole et aussi pas bénévole. Quand j'interviens pour une structure, je ne peux pas être bénévole. On est obligé de facturer, donc on est obligé de déclarer, et voilà.
Et par rapport à votre ferme, donc vous dites que vous êtes retraité. Donc est-ce que vous louez les terres de la ferme?
Cette année, par exemple, j'ai dépanné une personne qui s'installe à Mardier, une jeune chèvrière qui avait ses chèvres, qui avait son bâtiment qui n'était pas fini. Donc je les ai eus et ils sont partis il y a une semaine. J'ai encore ces boucs qui sont là. Et parce qu'elle n'avait pas de bâtiment, donc j'ai hébergé gracieusement le temps qu'elle monte son bâtiment. Après, j'essaye de voir pour faire des espaces tests en maraîchage, mais c'est compliqué parce qu'il faut un peu du logement. Alors je n'ai pas une ferme qui est au niveau bâtiment très grande. Donc s'il y a quelqu'un qui vient là s'installer, qui cohabite, c'est un peu compliqué. Donc il faudrait que je parte d'ici, j'ai un peu de mal pour l'instant à partir d'ici. Donc là je suis un petit peu en lien avec des gens qui ont des projets, avec qui on pourrait éventuellement faire quelque chose. Donc j'ai plusieurs personnes, il y a les jardins de la voie romaine qui sont à Beaune-la-Rolande, qui ont le projet de faire de la semence paysanne. Il y a des agriculteurs qui sont en bio déjà, qui seraient intéressés peut-être de s'agrandir. Alors moi, j'aurais préféré que ce soit plus espace test ou quelqu'un qui fasse plus un truc ici. Mais bon, pour l'instant, c'est la transmission, c'est sur le chemin. Donc je suis en lien avec des personnes, mais il n'y a pas eu de décision. Donc tout est en prairie pour l'instant. Et avec, j'ai 13 brebis, un bélier, 4 poules, un jardin. Donc voilà. Ces trois là.
Oh, c'est trop mignon. Oh, le tout petit.
Oui. Ah, bah, il y en a un qui est là. Oui, il y en a un, c'est vraiment un paquet de cigarettes.
Oui, oui. Ah, elle a encore un peu de sang.
Ouais, bah, parce qu'elle vient de défaire.
Ah, oui, vraiment, ça a 2 jours, quoi, même pas.
Ah non, ça a été il y a 1 heure ou 2.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, ouh là là.
Ah
oui,
oh, des bébés.
Il y en a 2, il y en a toujours un petit. Là, on a fait 3. C'est assez rare parce qu'en général, ils en font 1 ou 2. Donc dès qu'ils font leurs petits, je les laisse un petit peu à part, là, qu'elles s'occupent bien d'elles, et après je les mets ici, ils ont un petit endroit un peu à l'abri du vent, là ici, c'est très bien pour... Voilà. Ça c'est la fille de celle qu'on a 3, c'est la sœur de l'autre qu'on a vue, celle qui est à droite. Là.
Donc c'est une histoire de famille.
C'est une histoire de famille, alors c'est des solognottes. Des solognottes. Donc des brebis très adaptées un petit peu aux extrêmes un peu climatiques. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent très bien quand c'est très humide et qu'ils se débrouillent aussi très bien quand c'est très sec. C'est très rustique.
telle qu'elle est, des fois, elle n'est pas tendre.
Non, elle n'est pas tendre, elle peut être cruelle même. Mais
Oui, alors j'imagine en fait que vous qui avez aidé pas mal d'agriculteurs ces derniers temps, les sécheresses, les impacts considérablement.
C'est de plus en plus compliqué parce que maintenant on voit qu'on est sur un régime qui a tendance à virer à deux saisons, là, la saison des pluies et puis saison sèche. Alors, on a l'impression qu'on va vers là. C'est vrai qu'il faut tout remettre en question un peu notre façon de voir les choses, de cultiver, de ne plus être dans nos habitudes. De toute manière, l'habitude dans l'agriculture, c'est pas une bonne. Et puis le fait de faire de la monoculture, un peu ce qui a été le cas pendant les dernières décennies, ben, ça fragilise énormément les systèmes. Ce qu'il faut, c'est faire de la biodiversité, éviter d'avoir trop de concentration de quoi que ce soit végétal ou animal, sinon ça crée des maladies, humains aussi. Et du coup, c'est toujours régulé par la nature. Mais la nature est cruelle, mais c'est elle qui il faut s'impliquer, enfin être, on en fait partie, donc il faut aussi la comprendre, je pense, plus que nous. Après, on n'est qu'au niveau de la planète, on est des bactéries nous-mêmes. Parce que en fait, moi je compare souvent le sol par rapport à la planète, à notre intestin par rapport à nous. C'est-à-dire que le sol, il y a une flore, une faune, c'est quelque chose qui digère un peu les choses. Et du coup, à nous d'avoir un impact plutôt bienfaisant, d'être une bactérie plutôt de symbiose ou être pathogène en fonction de ce qu'on va avoir comme impact sur la planète. Donc je fais souvent cette analogie, un petit peu, de se dire, ben nous, en fait, suivant comment on va agir vis-à-vis de la planète, on va être vis-à-vis du sol. Parce qu'on se comporte plutôt en maladie quand on voit tout ce qu'on bétonne, tout ce qu'on traite, tout ce qu'on... C'est un facteur de maladie. Hein. C'est un peu, pour moi, je le compare à un cancer un peu, qui se reproduit sur lui-même indépendamment et qui détruit un peu le... Donc on est un peu à agir comme ça, donc on a les moyens un petit peu de faire autrement. C'est une prise de conscience un peu globale, là, maintenant qu'on est à l'ère du Internet et tout, on a moyen justement de communiquer comme ça, donc il y a le côté... positif, il peut y avoir le côté négatif, mais il peut y avoir le côté positif de transmettre justement la prise de conscience à avoir un comportement, des habitudes vis-à-vis du sol, plus ou moins directement, parce que bon, on n'est pas tous paysans, mais de savoir à qui on va acheter ses produits, qui on va faire travailler, à qui je confie mon petit carré de terrain. Est-ce que je le confie à un gros qui va faire de l'industriel ou est-ce que je le confie à quelqu'un qui va... Donc ça, on le valide par nos achats.
Près de l'au-delà, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, se trouve ma mécène que j'aime autant que les arbres, le vent, qui battent le temps d'une mesure, et au fur et à mesure que les champs avancent, la faune et la flore. Les métaphores entrent en transcendance, en transformation, en transformation. Dieu des dieux, Dieu du feu, Dieu de toutes les fibres, il est beau le bruit du bois, il est beau le bois. Il est beau, 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 le bruit du bois. Il est beau, le bois duquel je viens, et je viens vous dire que j'ai rien à dire, mais que l'on respire mieux là-bas, sur le haut plateau, près de l'eau de la fontaine, qui insuffle la vie près du zéphyr, celui qui inspire.
Et vous avez l'impression que depuis les années 70, qui était un peu plus difficile, il y a une prise de conscience en ce moment ?
Qui est récente.
Récente ?
Qui est récente, oui. À un moment donné, j'y croyais plus trop d'ailleurs. Au début, parce que bon, je dis bon, ça marche comme ça. Mais c'est plutôt assez récent en fait. Hein. Ça a commencé à virer dans les années 2000 pour moi, même s'il y avait déjà des agriculteurs, on était quelques-uns quand même. Mais puis des consommateurs, parce que s'il n'y a pas de consommateurs, fallait cet ensemble-là. Mais à partir des années 2000, il y a eu vraiment un petit peu, ne serait-ce qu'au GAB, hein, des manifestations un peu pour un peu faire découvrir ce que c'était l'agriculture biologique. Et depuis une dizaine d'années, là, ça va en accélérant un peu, comme les problèmes vont aussi en accélérant. Hein. C'est-à-dire que il y a tout qui s'accélère, mais cette prise de conscience et le fait, moi je vois, il y a beaucoup de gens qui, dans les jeunes qui veulent s'installer en bio ou qui s'installent en bio, puis aussi des plus anciens, des gros, hein, que je conseille, qui sont bon, dans le Cher. Moi, je vais un peu partout en France, donc, et du coup, qui prennent conscience un peu, puis qui se disent, bon, alors c'est pour eux, c'est pas évident, parce qu'ils ont des habitudes, des traitements, tout ça, mais il y en a qui font le pas petit à petit, puis qui vont, quoi.
Et qui remettent en question ce
qu'on leur a appris. Et une fois qu'ils sont vraiment à le faire, ils reviennent plus en arrière, ils sont vraiment très contents d'eux, ils sont fiers, parce que c'est plus compliqué, ça demande beaucoup plus de technicité, et du coup, ils sont toujours très fiers de leur reconversion, quoi. Donc ça, c'est aussi une grande satisfaction, ça devient des amis, voilà, parce qu'ils font ce pas. Il y en a qui se reconvertissent plus ou moins vite, chacun a son rythme. Hein. Là, c'est plus compliqué, mais il n'y a pas de... Le principal, c'est de suivre un chemin, d'aller dans une direction. Quoi. Il y a un siècle, tout le monde était bio, hein. Tout le monde est... il n'y avait pas de soucis.
Donc toi, c'est rare.
Oui. Ouais, enfin, disons, il y a des races de moutons qui font Romanov qui fait 3-4 moutons. Mais en Solegno, comme ça, c'est assez rare.
Du coup, est-ce que les trois vont survivre?
Je sais pas. Apparemment, elle s'occupe bien des trois pour l'instant. Bon, le petit, là, il est petit. Mais bon, elle s'en occupe. Donc, je vais essayer de la bichonner aussi pour qu'elle ait bien du lait pour les trois. Parce que ce qui se passe des fois, c'est que la brebis en refuse, quoi. On peut en refuser un. Des fois, même à deux, elle dit qu'il y en a un de trop, quoi.
Et s'il y en a un de trop, est-ce que vous allez l'élever au biberon?
Non. Non, je peux le donner. Il y a quelqu'un qui s'intéresse, qui les prend, je les donne. Mais sinon, non, je ne le fais pas. Je l'ai déjà fait, hein. Mais voilà, faut être là, matin, midi et soir. Donc on est complètement... Et souvent c'est des agneaux qui peuvent vous lâcher dans les mains au bout de 2 mois, 3 mois, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils sont quand même plus fragiles. Même s'ils grossissent bien avec les laits reconstitués, ils sont quand même plus fragiles par rapport à des agneaux qui sont au lait de la mer. Ben oui. Oh. Ben oui, ça c'est une bonne mère, ça défend son... Hein, ça tape du pied. Mmh. Enfin, en tout cas, elle s'occupe bien des trois.
Univox se termine. Bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur votre Radio Campus.
Univox.